J'ai une formation de géographe très très classique universitaire. Je suis originaire de la région toulousaine, c'est là où j'ai été formé à l'université, notamment jusqu'en master par des collègues géographes du laboratoire dynamique rurale. Avec une orientation au départ assez rapidement vers les études rurales, c'est thématiquement, et méthodologiquement plutôt porté au départ par des méthodologies qualitatives. Les premières recherches que j'ai pu mener étaient plutôt d'ordre qualitative, que j'ai laissé progressivement un petit peu tomber ensuite, et puis j'y suis revenu pendant le travail de thèse, et je vais expliciter tout ça. J'ai quitté la région toulousaine ensuite pour me rendre en région parisienne, où j'ai été formé plutôt à des choses, des méthodologies quantitatives pour le coup, aussi à des méthodologies qu'on appelle d'initiation à l'analyse spatiale, de statistique, et aussi un intérêt pour l'épistémologie de la géographie, notamment des études rurales en général, qui s'est formé. Donc là, un parcours qui est à la fois de qualitativiste et puis de quantitativiste progressivement. Donc, je vais parler effectivement aujourd'hui, je vais revenir sur mon travail de thèse que j'ai réalisé donc, en région parisienne entre 2008 et 2012, donc, qui a pour titre Renouveau des campagnes françaises au pluriel, donc je vais expliquer pourquoi, évolution démographique, dynamique spatiale et recomposition sociale. C'est un travail qui a été mené au sein d'un UMR qui s'appelle l'UMR Géographicité, plutôt spécialiste d'études urbaines, quantitatives et d'études urbaines. J'étais à ce moment-là également rattaché à l'université Paris Diderot, qui est l'ancienne université Paris 7, et j'ai fait ma thèse sous la direction de Catherine Rhein, qui est une géographe, directrice de recherche au CNRS, également plutôt spécialiste d'études urbaines, de ségrégation urbaine et d'analyse quantitative de données, notamment du recensement. C'est plutôt là-dessus qu'on s'est retrouvés, moins que sur la thématique rurale, même si on a eu l'occasion d'échanger beaucoup là-dessus. La thèse est disponible en ligne sur ALSHS et complètement libre d'accès. Et donc, je suis effectivement aujourd'hui post-doctorant à l'IFSTAR. Dans un projet prédit, pour vous donner une idée, un projet prédit, c'est l'équivalent de contrat ANR, sauf que c'est des contrats financés par le ministère pour travailler sur les questions de transport et de mobilité. Je continue à travailler dans ce cadre de ce contrat-là sur les espaces ruraux, espaces de faible densité, campagne, mais sous l'angle des mobilités quotidiennes. On travaille sous l'angle de l'évolution des comportements de mobilité quotidienne dans les espaces de faible densité, avec une double dimension, qui est une dimension thématique. Il y a très peu d'études quantitatives là-dessus, c'est plutôt quantitatif, à l'échelle nationale. Quelles ont été les évolutions des dynamiques de mobilité quotidienne des habitants des espaces peu denses? C'est une question qu'on se pose. On essaye de dresser un portrait statistique là-dessus. Il y a aussi tout un volet méthodologique qui est quelles sources de données on peut avoir pour travailler sur ces questions-là à l'échelle nationale, quelle fiabilité il y a. Voilà, donc une entrée thématique, une entrée méthodologique. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je vais m'en tenir principalement à mon travail de thèse, revenir sur les principaux résultats du travail de thèse, mais aussi sur des prolongements que j'ai pu faire dans la lignée des analyses démographiques qui ont été réalisées à ce moment-là. J'ai organisé ma présentation en quatre parties, en commençant par une présentation, disons, du travail sous l'angle du positionnement que j'ai pu adopter et des axes méthodologiques, la méthodologie générale du travail. Et ensuite, j'ai décliné les trois points de présentation de résultats pour en expliquer rapidement la philosophie, c'est de dire travailler sur le nouveau rural, donc c'est travailler, à mon sens, j'y reviendrai sur avant tout des questions de croissance démographique. Donc je pars de là, le point de départ c'est celui-ci, caractériser les croissances démographiques rurales aujourd'hui en France, pour montrer que derrière ces croissances démographiques rurales, c'est avant tout des dynamiques migratoires qui participent de ces croissances-là, donc c'est le sens de la première partie. Ce qui m'amène à travailler essentiellement sur l'objet migration, l'objet déplacement dans l'espace, l'objet changement de résidence, qui peut être fait sous plusieurs façons, plusieurs méthodologies, et le jeu de mots de passage de l'idée de migration résidentielle à mobilité résidentielle, derrière ça, c'est essentiellement des dispositifs méthodologiques qu'on met en place, et des orientations de travail qui diffèrent pour approfondir l'analyse, tout simplement, des installations de nouvelles populations dans les campagnes. C'est le sens de la deuxième partie de la présentation. Je terminerai par une partie qui porte sur analyser les installations résidentielles dans les campagnes. Finalement, ça nous amène rapidement à analyser la transformation des populations rurales et la recomposition des populations rurales sous l'angle des nouvelles populations qui arrivent, qui ont des profils souvent très différents des anciennes populations. Et donc, c'est ce que j'appelle installation résidentielle et recomposition des populations. Et ne pouvant pas tout traiter, je me concentrerai sur deux cas. C'est travailler la recomposition des populations par l'analyse des catégories socioprofessionnelles, chez les actifs comme chez les retraités. C'est le sens de la première sous-partie. Et la dernière sous-partie porte sur la spécificité des publics étrangers qui viennent s'installer dans les campagnes, qui ont acquis une certaine visibilité médiatique. Qu'est-ce que ça recouvre? Quelles sont ces populations? Quelles nationalités? Quels profils sociaux également de ces populations? C'est le sens de la dernière partie de la présentation. Alors, pour rentrer dans le sujet de thèse, j'ai commencé ma thèse en 2008 en région parisienne, avec une formation initiale plutôt de ruraliste, et puis ensuite, je suis allé vers un laboratoire plutôt d'études quantitatives. Mais il y avait quand même des positionnements de départ assez forts, que je rappelle ici. Clairement, je me considère plutôt comme ruraliste, avec une entrée dans le sujet qui est, pour travailler sur la croissance, le renouveau rural, il faut adopter clairement une lecture moins urbano-centrée, des évolutions démographiques, des évolutions de population dans ces territoires. Alors, qu'est-ce que j'entends par moins urbano-centré? C'est vraiment adopter une démarche qui parte des espaces de campagne pour analyser par eux-mêmes leur dynamique. L'exemple le plus classique que je mets en évidence, c'est dans quelle mesure on peut analyser les dynamiques de renouveau rural si on utilise, par exemple, les typologies INSEE classiques de classification statistique qui sont pensées elles-mêmes au départ pour catégoriser des espaces urbains et pas des espaces ruraux. Donc il y a déjà un travail préalable de définition de qu'est-ce qu'on entend par le rural au plan statistique, et j'y reviendrai par la suite. Donc, il y a l'idée également aussi qu'en travaillant, en affichant l'idée de renouveau, ça s'inscrit effectivement dans la lignée de travaux antérieurs, forcément les travaux et le livre de Bernard Kaiser sur la renaissance rurale, également ce qu'a pu écrire Jean Renard sur les campagnes vivantes, pour un appel pour les campagnes vivantes. En tout cas, il y a un positionnement vers une approche plus positive de ce qu'on peut appeler des dynamiques démographiques rurales, par opposition à des travaux qui ont pu être menés dans les années 80, autour de Roger Béteille notamment, sur la crise rurale. L'objet n'est pas de dénigrer ces travaux-là, mais de partir d'un regard plus positif sur les territoires et sur les dynamiques démographiques, pour bien sûr aussi mettre en évidence qu'il reste des territoires en crise, qu'il reste des inégalités fortes dans le processus, mais en tout cas le positionnement de départ est plutôt sous l'angle de ce que a pu défendre comme idée Bernard Kaiser ou Jean Renard. J'ai fait le choix aussi, parce qu'on peut aborder la question du renouveau rural sous d'autres questions que le seul fait démographique. Le fait démographique, à mon sens, est le principal, mais j'aurais pu aussi travailler d'autres questions. C'était, à mon sens, largement suffisant pour un travail de thèse, donc je me suis concentré vraiment sur des aspects de démographie, de sociodémographie, de profil des populations. Et puis, il y avait également l'idée que, pour aborder ce sujet-là, il fallait adopter un positionnement résolument, peut-être un grand mot, mais interdisciplinaire. Je suis géographe de géographie humaine, géographie rurale, clairement, mais les analyses que je peux mener empruntent largement aussi à la démographie, parfois à la sociologie, et plus globalement au champ des études rurales. Et ça faisait partie des positionnements de départ assez marqués. La problématisation du sujet était finalement assez simple. Quand j'ai commencé ma thèse, il y avait dans l'esprit, il y avait dans les travaux, l'idée que renouveau rural au sens de croissance des populations était acté pour la majorité des gens. Ça devenait de plus en plus incontestable, mais à mon sens, il y avait un manque de pluralisation du sujet, de regard, d'une lecture plus diversifiée de l'objet qui était le renouveau rural, la croissance démographique rurale. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends deux choses principales. Une entrée par des inégalités, effectivement, c'est un processus qui a une tendance plutôt générale à la croissance, on va en reparler ensuite, mais une pluralisation de l'objet, une lecture pluralisée du sujet, sur le plan spatial, sur le plan temporel, pour montrer qu'il y a aussi derrière ça des trajectoires très très variées parmi les territoires. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est une pluralité de l'objet par les populations et les processus qui sont derrière. C'est-à-dire, le renouveau rural est finalement un constat de croissance migratoire, de croissance démographique. Quelles sont les populations? Quels sont les processus qui participent à ça? Et clairement, on a une diversité de situations, une diversité de population et aussi également de dynamiques qui participent de ces croissances démographiques. Il y a une première partie de thèse qui est assez générale sur les dynamiques démographiques, où l'idée est effectivement d'acter le processus, de le caractériser, d'en montrer la diversité sur le plan de point de vue statistique et à l'échelle nationale, mais aussi à des échelles plus locales. Quelques hypothèses dont j'ai souhaité travailler, c'est par exemple une hypothèse d'ordre spatial, faire l'hypothèse que aujourd'hui une des caractéristiques fortes de la dynamique de renouveau rural, c'est l'éloignement des croissances des centres urbains, finalement, une moindre influence urbaine sur les croissances rurales. En tout cas, c'est une hypothèse à travailler. Une deuxième hypothèse, qui était assez classique et simple, c'est de dire derrière les reprises démographiques, c'est essentiellement des installations résidentielles qu'il y a. Comment on pourra caractériser ça? Qui sont ces personnes? C'est une deuxième hypothèse. Une troisième hypothèse, plutôt d'ordre sociologique, si aujourd'hui on est dans une phase de croissance de population, de migration et d'accentuation des migrations, finalement, est-ce que ce n'est pas lié à une diversification des profils d'individus qui sont intéressés ou qui sont attirés partiellement par des territoires de campagne? Faire le lien entre accentuation de la croissance démographique et diversification du profil des individus qui peuvent être venir s'installer dans des territoires de campagne variés à l'échelle nationale. Les parties 2 et 3 de la thèse portent sur plutôt des études de cas, une première sous l'angle d'un processus, décortiquer un processus qui est celui de la gentrification rurale, qui a été très peu travaillé dans les études françaises, qui est plutôt un processus ici d'inspiration dans les études rurales anglo-américaines. J'en parlerai peu aujourd'hui, c'était effectivement montrer que derrière des croissances démographiques au sens stricto sensu, il y a aussi des profondes transformations des structures de population, des structures de logement, et là plutôt sous l'angle de la gentrification, donc à entendre, pour le dire simple en français, sous l'angle de l'embourgeoisement, c'est-à-dire qu'une partie des croissances, même faible partie, pourrait être portée par des populations de classe moyenne supérieure qui participent à la recomposition forte des populations, mais aussi des structures de logement, des rénovations, bien sûr, mais aussi des transformations dans les décisions politiques. Et la troisième partie de la thèse porte sur un public particulier, qui est le public des retraités, comme interrogation, dans quelle mesure, effectivement, les renouveaux ruraux aujourd'hui, les reprises démographiques, ne sont-elles finalement pas le fait essentiellement de retraités? C'était une question. Finalement, je montre que c'est plutôt pas vrai, enfin, ça participe, mais que c'est pas finalement une population ni exclusive, des populations ni exclusives, ni forcément dominantes. Quelques éléments de méthodologie. Il y avait aussi l'idée au départ dans la thèse, qui rejoint un peu le parcours que j'ai pu avoir dans mes études, de croiser clairement des méthodologies quantitatives, parfois approfondies, et des méthodologies qualitatives. Tout ça en essayant de les mener à des échelles spatiales variées. Je m'explique. L'idée était de travailler statistiquement la reprise rurale à l'échelle nationale, mais aussi en explorant les choses à des niveaux régionaux ou locaux, en travaillant avec des statistiques notamment de recensement qui permettent partiellement d'aller explorer statistiquement, localement, des tendances au niveau démographique. L'idée était aussi de faire un peu l'équivalent par des méthodologies qualitatives en procédant à des enquêtes de terrain sur des petits territoires et en multipliant les enquêtes de terrain pour avoir, si ce n'est une représentativité, en tout cas quelques études de cas qui permettent de comparer qualitativement les tendances. Au final, j'ai pu réaliser dans ma thèse trois enquêtes de terrain, essentiellement au méridional, dans le sud de la France, et j'aurais aimé en faire plus à ce moment-là. J'ai pas eu le temps et forcément les moyens pour le faire. Mais en tout cas, l'idée était aussi de ne pas se cantonner à une seule ou deux études de cas, mais de diversifier le regard qualitatif qu'on peut porter sur les dynamiques démographiques. Pour ce qui est du volet quantitatif, l'enjeu est effectivement de brasser des données et des sources de données variées pour travailler cette question-là. Les principales sources de données, la principale source de données utilisée, c'est effectivement le recensement. J'ai beaucoup travaillé sur les données de recensement, je continue à le faire aujourd'hui. Dans une version des données de recensement les plus détaillées qu'on peut avoir, ce qu'on appelle des fichiers détail ou des fichiers individus, qui en fait sont des tables où chaque ligne correspond à un individu, sans pré-agrégation géographique, qui permettent une marge de manœuvre assez forte, notamment en termes d'agrégation spatiale et de traitement de l'information à l'échelle nationale, mais à des échelles plus locales également. Donc j'ai travaillé ici avec ces données-là depuis les années, depuis le recensement 68 essentiellement. J'ai utilisé également plusieurs enquêtes, ce qu'on appelle des enquêtes nationales INSEE, principalement les enquêtes logement ou une enquête qui s'appelle l'enquête histoire de vie, j'en reparlerai par la suite, pour approfondir l'analyse des migrations sous l'angle des trajectoires des résidentiels des individus. Donc c'est une des seules enquêtes en France qui propose ce type de données à l'échelle nationale. Et d'autres sources de données dont je ne parlerai pas aujourd'hui, je ne mobiliserai pas, dont des données sur les revenus également, les revenus moyens par commune, des choses comme ça, des données sur les hébergements touristiques, le lien entre croissance rurale et dynamique touristique, à partir de données du ministère du Tourisme essentiellement, sur les hébergements et les populations présentes. Le deuxième volet qualitatif en termes de précision que je voulais évoquer, c'était dans cette question de la définition des campagnes, moins urbano-centrées que ce qu'on peut trouver dans les classification INSEE, j'ai pris le parti de construire une classification personnelle pour travailler les dynamiques rurales à l'échelle nationale. Alors, cette classification-là ne part pas de rien. Je me suis pas mal appuyé au départ sur les travaux qui ont été menés par un bureau d'études géographiques qui s'appelle la CGESA et son directeur, notamment Jean-Claude Bontron, qui avait mené plusieurs typologies à l'échelle des cantons français. Donc, moi, j'ai travaillé sur les bassins de vie. Plusieurs raisons, je peux y revenir dans le débat si la question se pose, mais l'idée était donc développer statistiquement une classification qui permette de différencier plusieurs types de campagnes à l'échelle nationale, d'en analyser ensuite les dynamiques propres à chacune de ces campagnes-là, voir dans quelle mesure les reprises rurales concernent les différents types de campagnes identifiées, etc. La méthodologie repose sur une classification statistique, ascendante hiérarchique, avec des analyses de données préalables, sur une quarantaine de variables, et pour ne pas m'éterniser trop dans la méthodologie, au final, à l'instar de ce qu'avait pu identifier Jean-Claude Bontron, ou ce qu'on retrouve partiellement dans la typologie d'Attard de Mohamed Hilal 2012, globalement, il y a 3-4 grands profils de campagne qui se détachent aujourd'hui. Quand on raisonne de manière assez extensive, et vous voyez bien que quand on regarde la carte, je raisonne de manière assez extensive ce que peut être une campagne aujourd'hui. Clairement, il y a ce que j'appelle, mais ce que d'autres appellent aussi, les campagnes des villes. On peut parler d'espace périurbain, là, on est vraiment dans quelque chose de la proximité urbaine, qui sont régies par des dynamiques migratoires, mais aussi d'installations résidentielles essentiellement périurbaines, avec deux niveaux de distinction qui correspondent à des phases du phénomène un peu plus ou moins récentes. On le verra ensuite dans les analyses démographiques. Donc un premier type qui serait les campagnes des villes, les campagnes périurbaines. Un deuxième type que j'appelle peut-être maladroitement campagne productive, alors qui a à entendre ici au sens des profils des populations, c'est-à-dire qu'on est clairement dans des territoires là où il reste une forte surreprésentation de profils socioprofessionnels que sont d'une part, pour le premier type, des ouvriers. L'activité industrielle et l'activité ouvrière au sens des populations est très fortement surreprésentée dans le type 3. Et le type 4, où c'est plutôt les agriculteurs qui restent très fortement représentés ou surreprésentés par rapport aux autres types d'espaces. Donc ça correspond à des espaces très variés, assez larges, mais notamment du centre, du nord de la France. Puis un troisième profil, là aussi, où on retombe sur typiquement des espaces, parfois littoraux, mais pas exclusivement de montagne, qui sont dits ici présentiels, qui peuvent être dits résidentiels, ou en tout cas il y a une forte marquée fortement par l'activité économique du tourisme. Et l'attractivité aussi résidentielle de ces territoires, où on retrouve la plupart des territoires de montagne, de littoraux du sud et de l'ouest de la France, et par la suite, vous verrez des dynamiques démographiques assez particulières. Pour clôturer cette première partie sur les aspects de positionnement et de méthodologie, mentionner également, je le ferai dans le reste de la présentation, donc les enquêtes de terrain que j'ai pu mener, donc au final, trois terrains menés dans le sud de la France. Un premier qui correspond à deux communautés de communes situées dans le département des Alpes de Haute-Provence. Donc on est dans le Luberon, dans le Haut-Luberon ici, dans le nord du parc du Luberon. Et puis, pour ceux qui connaissent, entre Manosque et le sommet de la montagne de Lure, on est dans un coin rural, mais sous influence urbaine relative. On est quand même à une distance raisonnable. Donc ça, c'était le premier terrain. Le deuxième terrain est situé dans le département de la Haute-Vienne, au sud-ouest de la Haute-Vienne, aux confins de la Dordogne et de la Charente. Un profil également intéressant, j'y reviendrai. Et un troisième, donc, qui est entre deux départements, le département du Tarn et le département de l'Hérault, et qui est un profil de moyenne montagne. On est ici sur les contreforts sud du Massif central. On est à des altitudes qui peuvent aller jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Et donc, ces trois terrains-là ont été choisis pour plusieurs motifs, mais l'idée était de les utiliser ensuite par différentes méthodologies, en commençant par des explorations statistiques à l'échelle locale. Qu'est-ce que les statistiques permettaient de dire à l'échelle locale en utilisant des données de recensement, notamment précises sur les flux migratoires, etc. Une étape d'observation des lieux, assez simple, mais de croisement en fait entre ce qui ressortait des statistiques et l'organisation, les évolutions qu'on pouvait observer dans ces territoires. Et puis quand même une troisième étape qui était l'étape principale de rencontre, d'entretien semi-directif mené auprès de populations assez variées, à la fois des acteurs, bon, notamment élus, mais aussi pas mal de personnes ressources, éventuellement des URIDI locaux, mais par exemple des acteurs du marché immobilier, des notaires, des agents immobiliers, pour connaître un peu les dynamiques récentes, les dynamiques locales, et puis un volet sur des entretiens menés sur les démarches résidentielles de certains nouveaux résidents. Et ça avait été essentiellement le cas auprès de retraités, puisque c'était un profil d'individu qui m'intéressait. Pour en venir plus précisément aux analyses qui ont été menées, et en commençant donc par caractériser le phénomène de renouveau rural au sens de croissance démographique, avec des questions au départ qui étaient très simples et qui restent simples, c'est s'il y a un renouveau démographique rural, dans quel territoire, quel, quel, quel territoire ça concerne, à quel moment, quelles sont les temporalités qu'il peut y avoir derrière ce phénomène-là. Une fois que cette étape-là est faite, évaluer, là aussi de manière assez classique, le poids des dynamiques migratoires dans ces reprises, dans ces croissances démographiques, en travaillant l'articulation entre évolution naturelle et évolution migratoire, ce qui est un peu plus simple en démographie, et puis voir dans quelle mesure ça se... quelle configuration on peut observer derrière ça à l'échelle nationale entre les types de campagnes, etc. Donc ce qui est le plus classique finalement, dans l'interprétation que moi je fais au départ de ce qu'est une reprise rurale, c'est est-ce que la population croît ou est-ce qu'elle décroît, de manière très simple. Vous allez avoir observé la première carte qui représente la période 1968-1975, où clairement on est dans une phase où la plupart des communes hors urbaines, très urbaines, perdent de la population. On a un phénomène clairement ensuite de croissance périurbaine qui se développe. Et puis on trouve la dernière carte qui était ici, celle faite pendant la thèse, qui pourrait être actualisée, donc qui est sur la période de 1999-2007, où clairement on a de plus en plus de zones qui gagnent de la population. Alors bien sûr, les périphéries urbaines, toujours de plus en plus éloignées. Mais ce qu'on voit moins sur la carte ici, c'est des tout petits points qui apparaissent un peu partout sur le territoire, des tout petits points rouges qui tendent à se diffuser, à se développer dans un bon nombre de territoires à l'échelle nationale. On peut faire ce jeu-là aussi à l'échelle de territoires locaux. On a quand même trois territoires qui ont des trajectoires très différentes, notamment le territoire de la Haute-Provence, où on observe des croissances très anciennes, pour différentes raisons, mais qui se perdurent jusqu'à la dernière phase d'étude. Deux autres territoires, au contraire, qui connaissent des croissances assez récentes, et notamment pour le territoire 2, où finalement, jusqu'à la dernière période, on est vraiment dans de la décroissance démographique assez marquée, et qui, ça ne concerne pas toutes les communes, bien sûr, mais ça concerne une bonne partie des communes de la communauté de communes. Et le troisième terrain est plutôt caractéristique de croissance qui commence dans les années 90, et qui marque une différence assez marquée entre les communes de l'Hérault à l'est et les communes du Tarn à l'ouest. Certaines décroissent, continuent de décroître, et d'autres croissent, et de manière parfois importante. Donc on a un premier constat qui est finalement un constat assez simple. On prend des territoires locaux, on analyse les dynamiques démographiques, on voit que ça croît, que ça décroît, et on essaye de voir pourquoi, ou on essaye de continuer de caractériser le phénomène à l'échelle nationale en utilisant d'autres indicateurs. Un indicateur, ça peut être la taille des communes. Analyser les dynamiques migratoires, les dynamiques surtout démographiques, ici, pas migratoires, selon la taille des communes. On prend toutes les communes qui ont une taille équivalente à un instant T, selon la période, et on fait des indicateurs de synthèse, des moyennes, de leurs évolutions migratoires selon la taille des communes. Donc, le graphique est à lire comme en abscisse la taille de la commune et en ordonnée le taux de croissance moyen annuel de la population. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on passe d'une situation de diagonale, c'est-à-dire où les très très petites communes dans les années 70 perdent beaucoup de population alors que les communes rurales intermédiaires de 2000 habitants croissent de manière importante, à une phase de stabilisation où finalement on observe des niveaux de croissance équivalent aujourd'hui dans l'ensemble des profils de communes selon leur taille. Une droite qui se crée où, par les toutes petites communes qui continuent à croître, qui commencent à croître, mais de manière moindre par rapport aux autres, mais une phase de stabilisation, une phase d'homogénéisation des niveaux de croissance à l'échelle nationale qui est intéressante, mais dans du positif, et donc ça va dans le sens effectivement d'une forme de reprise rurale. Une deuxième façon de faire, c'est de mobiliser la typologie qui a été présentée tout à l'heure et d'analyser pour chacun des types d'espaces leurs variations démographiques au cours du temps. Donc là, avant de commenter le graphique, un petit point méthodologique. Le graphique est actualisé ici. La dernière période correspond à la période 2006-2011, qui sont les dernières données de recensement les plus récentes qu'on peut avoir et qui sont, pour la première fois, un couple de recensement qui repose sur le nouveau mode de recensement qui a commencé en France en 2004. Et donc, on est sur les tendances ici qui sont les plus récentes qu'on peut avoir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va retenir? Plusieurs choses. Première, on peut retenir déjà que, comparativement sur la période, on a, dans un premier temps, des différences de dynamique démographique qui sont très marquées. Et on est plutôt aujourd'hui sur une tendance à l'homogénéisation, où les espaces qui, avant, essentiellement périurbains, connaissaient des croissances très fortes, ont décliné, ils continuent à croître de manière forte, mais comparativement à ce qui a pu être observé dans les années 70, c'est quand même bien moindre. Et inversement, on a une tendance à la croissance démographique de l'ensemble des autres types d'espaces par rapport à la typologie qui est utilisée, mais on peut en utiliser d'autres. Globalement, aujourd'hui, l'ensemble des configurations moyennes, si on agrège les résultats à l'échelle de configuration spatiale nationale, on est dans des phases positives, des tendances positives à la croissance, même dans des territoires ruraux, qui, dans la typologie utilisée, sont les territoires les plus classiques, très agricoles, du centre de la France, etc. qui, en moyenne, croissent. L'idée n'est pas de dire qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où la population décroît. C'est pas l'idée. Mais si on raisonne de manière agrégée, effectivement, on est plutôt dans une tendance moyenne à la croissance, en notant ce qui n'était pas fait dans la thèse et ce qui est fait dans le graphique ici, que tout de même, on peut amener une petite nuance, c'est que si on compare les tendances les plus récentes, on est plutôt aujourd'hui dans une phase de tassement. C'est-à-dire clairement, des territoires dont la croissance avait été à peu près régulière depuis une vingtaine d'années jusqu'à devenir positive, aujourd'hui ont plutôt tendance à se tasser. Donc on est dans une phase toujours de croissance, de reprise, mais moindre. Enfin, en tout cas, on est sur quelque chose qui progresse plus. Donc à voir la suite, mais en tout cas... Ça pose pas mal d'interrogations sur la suite des événements. Donc une fois qu'on a caractérisé le fait que ça, de plusieurs manières, avec plusieurs indicateurs, plusieurs façons de faire la croissance de ces territoires, qu'on a observé qu'il y avait une réalité, on cherche à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. En démographie, il y a quelque chose qui est très classique, mais en géographie très simple, c'est quand on étudie l'évolution d'une population sur un territoire, il y a juste deux leviers qui font évoluer la population sur un territoire. Il y a ce qui est de l'ordre du naturel, la différence entre les naissances et les décès, il y a ce qui est de l'ordre du migratoire, la différence entre les entrées et les sorties. Et on essaye de voir, par territoire, ici là je reprends les indicateurs de la typologie, qu'est-ce qui fait varier, finalement, selon les territoires, la population, mais en tout cas, comment ont évolué, respectivement, les dynamiques migratoires, les dynamiques naturelles. Si on raisonne à l'échelle de l'ensemble des types d'espaces observés ici, finalement, on se rend compte que les dynamiques naturelles, qui sont en bleu, elles évoluent, bien sûr, elles fluctuent, mais elles fluctuent très peu. Alors qu'on a des évolutions très marquées sur les dynamiques migratoires, sachant que derrière les dynamiques migratoires, il y a deux choses, il y a des entrées, des gens qui arrivent, il y a aussi des sorties ou des moindres sorties, c'est-à-dire qu'une croissance, une dynamique migratoire positive, ça peut s'expliquer par, il y a plus d'entrées, mais il y a aussi moins de gens qui partent. Donc c'est dans le phénomène de reprise, il y a aussi un phénomène direct et un phénomène indirect, qui est peut-être moins de gens qui quittent le territoire. Qu'est-ce qu'on va retenir de la comparaison des différents types de profils d'espace? À part le premier type d'espace, qui est donc le périurbain le plus classique historique, où on a une forte diminution de la dynamique migratoire, mais qui reste en croissance, bien sûr. Après, on observe, pour plusieurs types d'espaces, des configurations finalement assez semblables, où, parallèlement à une stabilité de la dynamique naturelle, on a une phase régulière de croissance de l'indicateur migratoire, à l'exception de la dernière période. Donc le tassement qu'on observait tout à l'heure dans les dynamiques agrégées, il correspond bien essentiellement à un tassement au niveau migratoire. C'est-à-dire que ça, c'est positif, ça reste positif, mais on a moins d'arrivées. Enfin, voilà, le rapport migratoire s'est tassé au cours des années 2000 essentiellement. Sur des cas locaux qui sont assez variés, on a des profils d'évolution naturelle et migratoire assez contrastés, mais qui tendent tout de même vers la même chose, c'est-à-dire des dynamiques naturelles assez stables, plutôt négatives dans les terrains d'études, enfin en tout cas les 2 et 3 notamment, alors que des dynamiques migratoires, soit qui sont restées assez positives sur la période, soit qui ont cru de manière régulière depuis les années 70-80 jusqu'à atteindre un maximum au milieu des années 2000 dans le cas présent, dans la période d'observation. Une autre façon d'analyser le poids des dynamiques migratoires dans les évolutions et les tendances démographiques, c'est de travailler sur des profils de synthèse de chaque commune, en empruntant ici à des analyses, à l'analyse de trajectoire démographique des territoires, de manière agrégée. On définit pour chaque commune une situation. La commune est en crise si le solde naturel et le solde migratoire sont négatifs. Les nominations viennent de moi, effectivement, elles sont peut-être discutables, mais en tout cas, donc crise dans ce cas-là. Revitalisation si tout est positif. Exode quand le solde migratoire est négatif mais que le solde naturel est positif. Reprise quand le solde migratoire est positif mais que tout de même la commune reste en phase de décroissance naturelle. Et ce qu'on essaie d'analyser, c'est les trajectoires. C'est-à-dire pour chaque commune, on peut tracer une situation au cours du temps de passage d'un état à l'autre. Si on travaille ça de manière agrégée pour l'ensemble des communes, là c'est l'échelle des bassins de vie, c'est-à-dire l'ensemble des bassins de vie qui composent le type d'espace, on peut dessiner des morphotypes ou des morphologies de trajectoires agrégées qui varient, mais où des tendances majoritaires se dessinent. Dans le cas des campagnes des villes, il y a clairement une tendance majoritaire qui est de la revitalisation sur l'ensemble de la période. Donc des territoires qui sont proches des villes, qui depuis les années 70, majoritairement ont connu des croissances démographiques naturelles et migratoires. On a un profil complètement différent sur le deuxième type de campagne, qui sont les campagnes productives, où une majorité des territoires au départ sont dans une phase de crise ou d'exode, c'est-à-dire tout négatif ou éventuellement d'une situation naturelle positive, mais en tout cas sur le plan migratoire, tout est négatif, et progressivement un passage d'une partie des bassins de vie vers une situation majoritaire en fin de période, qui est une situation de reprise et non pas de revitalisation, où effectivement on est toujours sur la... où c'est vraiment le migratoire qui devient positif, mais qui n'est pas compensé, ou en tout cas où le naturel pour le moment reste négatif, voire très fortement négatif. On retrouve un peu le même profil de situation pour ce qu'on appelle les campagnes résidentielles ici, où c'est essentiellement porté par la migration qui porte la croissance et non pas des évolutions naturelles positives. Pour s'intéresser à la reprise rurale, l'objet principal finalement, c'est moins la dynamique démographique territoriale agrégée que l'objet mobilité, l'objet migration, qu'on peut appeler migration, qu'on peut appeler mobilité résidentielle. Alors la distinction ici importe sur deux choses. Quand je parle de migration et qu'en général on parle de migration résidentielle à l'échelle nationale en France, on s'intéresse à quoi ? On s'intéresse à des déplacements dans l'espace entre un point A et un point B, et on fait des statistiques sur ce déplacement qui, dans le cas du recensement, puisque c'est essentiellement les données de recensement qui sont utilisées ici pour analyser, pour travailler là-dessus, on a une information sur le précédent lieu de résidence. Alors la question a évolué au cours du temps. Anciennement, où est-ce que vous habitiez au recensement précédent ? Par exemple, en 1999, où est-ce que vous habitiez en 1990 ? Si c'est la même commune, vous n'avez pas déménagé. Si vous avez une autre commune, c'est que vous avez déménagé au cours de la période. En ne sachant rien des migrations intermédiaires, en ne sachant juste qu'en 90 vous habitez ici, en 99 vous habitez dans un autre endroit. La question a évolué en 2004. Désormais, on posait la question suivante. Où est-ce que vous habitez 5 ans avant ? Donc ça nous permettait de faire des analyses migratoires en se considérant le lieu de résidence 5 ans auparavant. La question a encore changé en 2011 pour une des questions d'harmonisation européenne. Maintenant, on pose la question, où est-ce que vous habitiez au 1er janvier l'année dernière ? Ça permet de réduire le nombre de migrations potentielles qui ne sont pas comptabilisées, qui sont entre les deux. L'inconvénient pour le moment, c'est qu'on n'a pas de données sur les données migratoires depuis le recensement 2008. C'est-à-dire qu'on attend, sans rentrer dans les détails de nouveaux dispositifs de recensement, on attend 5 ans ou 5 processus équivalents de recensement pour avoir des données qui sont de nouveau utilisables en termes de dynamique migratoire. Quand je parle de migration, quand on parle généralement de migration dans la littérature, c'est ça, c'est un déplacement, un changement de résidence dans l'espace, de manière simple. Il y a eu toute une littérature dans les années 80-90, en démographie notamment, je cite ici un article de Jacques Brun, de Catherine Monvalet, qui appelle à des travaux sur les mobilités résidentielles, et la subtilité dans le terme appelle finalement à complexifier l'analyse et ne pas s'en tenir à un simple mouvement d'un point A ou d'un point B, mais de prendre en compte les biographies des individus de manière quantitative ou qualitative, de prendre en compte de manière plus systématique les motivations des individus, en tout cas dépasser la seule analyse statistique d'un déplacement pour le recontextualiser, ces déplacements-là, dans les trajectoires personnelles des individus, dans les trajectoires des territoires éventuellement, etc. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans la thèse, de jongler de ces deux objets-là, qui nous donne des choses sur qui sont principalement les individus qui sont venus ou qui continuent de venir s'installer dans les campagnes. Avant d'en venir à des questions de profil d'individus, la migration, donc, une différence, le passage d'un type d'espace A à un passage dans un type d'espace B, qu'on peut schématiser, synthétiser de manière très synthétique, l'ensemble des données migratoires du recensement 2007, qu'on réagrège dans les catégories spatiales que je vous ai présentées tout à l'heure, et on trace des flux qui ne sont pas ici des flux simples, mais qui sont des soldes. C'est-à-dire on fait le solde entre les entrées, les flux dans les deux sens. Donc dans le sens de la flèche, c'est le solde positif, et la taille correspond à la plus ou moins forte nombre d'individus en positif pour le type d'espace vers lequel la flèche est pointée. Qu'est-ce qu'on en retient principalement ? Deux choses. À l'échelle agrégée, notamment dans les échanges entre urbain et rural, ce qui dans ma catégorie sont des territoires urbains ou ruraux, l'ensemble des catégories spatiales rurales ont des soldes positifs avec l'équivalent de leur catégorie spatiale urbaine, à l'exception d'une, le type 3 dans ma typologie, qui est le campagne productive au sens ouvrière et industriel, notamment du nord-est de la France, qui reste un type très particulier dans la dynamique migratoire aujourd'hui. Deuxième subtilité dans le graphique, c'est qu'il y a une distinction dans les flèches entre ce qui est de l'ordre du déplacement de proximité, des gens qui ont changé de résidence, entre le changement de commune de résidence et le département, mais qui sont restés dans le même département, ce que j'appelle une migration de proximité. Dès lors que les gens ont franchi au moins la frontière administrative d'un département, jusqu'à des migrations venant de l'étranger, j'appelle ça ici, et par la suite de la présentation, des migrations de longue distance. Et là aussi, on observe des différences assez marquées selon ces deux type de migration. Clairement, les migrations de proximité sont très largement majoritaires dans les dynamiques migratoires positives vers les campagnes des villes de périurbanisation. Il n'y a pas de grande surprise. Par contre, dès qu'on est sur des migrations positives vers les autres types de campagnes, on est essentiellement sur des migrations de longue distance. Si on essaie d'adopter le même type de dispositif d'analyse en décomposant les populations maintenant. Je le ferai ici que sous un indicateur pour ne pas surcharger la présentation, donc sous l'angle de l'âge des populations. Très simple également, on décompose les populations selon des tranches d'âge qui peuvent être discutées, mais qui sont voilà, 6 classes d'âge ici, et on essaye de voir quel schéma migratoire il y a derrière ces populations. On retombe aussi sur des choses qui sont connues dans la littérature et qui sont assez logiques. Il y a une exception qui est la tranche des 20-35 ans. Quand on analyse les 20-35 ans, clairement, il y a une attractivité urbaine très forte, notamment par migration de longue distance, et notamment venant des campagnes productives. Parallèlement, on a un fort départ par migration de proximité des bassins de vie urbains vers des campagnes périurbaines, là aussi, moteur très classique de la périurbanisation. Par contre, dès qu'on travaille sur les autres profils d'âge, on a une plus forte présence des migrations de longue distance, et plus forte présence des migrations de longue distance à destination des autres profils de campagne, résidentiels ou productifs. On peut aussi travailler sur les données migratoires de manière un peu plus affinée aujourd'hui en faisant l'hypothèse qu'on peut avoir on a une forme d'information annualisée avec le nouveau recensement, qu'on peut essayer de travailler de manière agrégée par année, même si les communes enquêtées ne sont pas exactement les mêmes. Là, je retiens un traitement qui montre que finalement, dans les tendances les plus récentes dont on peut analyser aujourd'hui le développement migratoire, à destination donc des 3 profils de campagne identifiés, et ça ne concerne ici que les individus qui résident dans des communes de moins de 10 000 habitants, la catégorie qui progresse légèrement dans les profils migratoires au niveau des âges, c'est plutôt la catégorie des actifs intermédiaires, ici les 35-49 ans, mais en tout cas, clairement, c'était un des points des analyses, d'autres analyses menées dans la thèse. En termes d'âge, finalement, la nouveauté au niveau des années 2000 serait plutôt là, serait plutôt au niveau des actifs en milieu de carrière et fin de carrière, qui aurait eu une accentuation assez marquée du profil de l'installation rurale, moins que des retraités qui, finalement, sont arrivés de manière importante dans les campagnes, mais finalement depuis assez longtemps. Donc l'innovation serait peut-être là, c'est plutôt au niveau des carrières professionnelles intermédiaires. Finalement, on peut aussi approfondir l'analyse en ne considérant pas seulement des tranches d'âge, mais en analysant les comportements âge par âge. On fait un pourcentage de profils parmi les migrations pour chacun des âges au moment du recensement. Et ça nous permet finalement d'analyser des effets de cycle de vie de manière beaucoup plus fine qu'en travaillant sur des tranches d'âge. Quand on voit cette planche de graphique-là, qu'est-ce qu'on retient? Première chose, une accentuation des mouvements, une accentuation des vagues, qui montre en fait une accentuation des effets de cycle de vie au cours du temps. C'est-à-dire les effets qui étaient peu marqués dans les années 60-70 sont clairement accentués, même si la norme n'est pas que la majorité des populations de tel âge vont migrer vers tel type d'espace. Il y a quand même une répartition des migrants qui va à peu près, quels que soient les âges, vers à peu près tous les types d'espace, mais il y a une accentuation des migrations des jeunes vers les espaces périurbains, une accentuation des retraités ou jeunes retraités vers les autres types de campagnes, ce que j'ai pu montrer par ailleurs, qui marche assez bien en termes de tendance annualisée, en termes d'âge annualisé, qu'on peut aussi décomposer selon les logiques de distance migratoire. Tout ça, ça nous mène à un travail sur la mobilité, sur la migration, comme un objet dont on peut complexifier l'analyse, en affinant, par exemple, l'âge d'observation, en travaillant, ce que j'ai fait notamment dans les enquêtes de terrain, sur les motivations des individus qui s'installent dans les campagnes aujourd'hui. Alors, j'en retiens, moi, au final de mes enquêtes de terrain, ce triptyque de motivation, ou de registre de motivation que j'ai pu voir émerger dans les discours, que ce soit des discours d'acteurs ou que ce soit des discours de nouveaux résidents, en ne prétendant pas du tout que c'est exhaustif, c'est lié très fortement aux gens que j'ai rencontrés, mais en tout cas, ça marchait assez bien dans les territoires que j'ai pu observer, et pas toujours partout, et des motivations des profils de migration ou de mobilité qui peuvent solliciter plusieurs registres de motivation, bien sûr. C'est des motivations qui ne sont pas du tout exclusives. Il y a un premier registre de discours qui est revenu de manière assez forte dans les positionnements des individus. Je leur posais la question très simplement, vous êtes venu résider dans cette commune-là, pour quel motif ou pour quelle raison? Un premier type de registre qui est d'argumentation qui portait sur la perception et la représentation des lieux en comparant représentation du lieu actuel de résidence, rural, par comparaison à un lieu antérieur de résidence plutôt urbain. Et clairement, l'objectivation ou l'explication de la migration reposait sur les atouts de l'un et les désagréments de l'autre. Il faut le dire très simplement, c'est ça. Ça, c'est un registre de discours assez classique. Donc, le rural, la campagne, je suis venu parce que c'est tranquille, alors qu'en ville, il y a du foisonnement. Il y a des grands espaces, alors qu'en ville, il y a de la promiscuité en termes d'espace. Il y a de l'insécurité en ville, alors qu'ici, on est dans une zone en pleine sécurité, etc. Un registre de discours qui jonglait entre la comparaison des espaces. Il y avait un deuxième registre de discours aussi, comme, disons, environnementaliste. La campagne, c'est l'espace de nature. Je voulais me rapprocher de la nature. Un discours qu'on a tous entendu, qu'on retrouve dans les argumentaires vers des installations dans la campagne, mais aussi dans les installations périurbaines. Et donc voilà, la nature, c'est du paysage, c'est du relief, c'est de la saison, c'est du végétal, c'est de la lumière, c'est plein de choses comme ça. Et j'avais envie d'aller vers ce type de mode de vie. J'en viens à deux autres types de registres qui sont moins liés à des représentations qu'aux pratiques des individus. Il y a un deuxième registre qui portait vraiment, et pour certains d'entre eux, ça m'a un peu surpris, sur les expériences. C'est-à-dire, vouloir s'installer à la campagne, c'est mobiliser des registres sur comment on perçoit la campagne, comment on perçoit la ville. Vouloir s'installer dans cette campagne, dans cette commune, c'est, pour une très grande majorité des cas, avoir eu l'occasion de déjà passer dans ce territoire-là. Passer comment ? Pour des motifs professionnels, pas mal de gens qui, pour des raisons X ou Y, au moment de leur carrière, sont venus dans le territoire et ont découvert, y ont repensé par la suite et sont venus s'y installer. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le présentaient. Y être venu pour des questions de loisirs aussi, et surtout pour des questions de vacances. C'est vrai que l'installation postérieure à des vacances passées dans le lieu, c'est revenu de manière assez récurrente. Ce n'est pas une grande surprise, mais c'est la fréquence qui est plutôt, même s'il n'y a pas de quantification ici, qui est revenu de manière assez récurrente. Et puis, on peut passer là-dedans aussi un registre tout ce qu'on appelle les retours au pays, l'expérience de l'enfance, l'expérience parfois qui saute des générations, c'est-à-dire le retour sur la terre des grands-parents et pas des parents, dans une maison familiale qui n'est pas forcément la maison familiale dans laquelle vivaient les parents, mais plutôt les grands-parents ou les arrière-grands-parents. En tout cas, des logiques de retour vers un territoire, vers le territoire des racines familiales, et qui donc recouvre cette logique d'expérience du lieu par des relations familiales. Il y a un troisième registre qui, à mon avis, est intéressant à approfondir, qui est peut-être un peu plus original, c'est des logiques migratoires, des logiques de mobilité résidentielle qui s'inscrivent dans des stratégies finalement spatiales, largement spatialisées, des trajectoires résidentielles. Je m'explique. Il y a un cas très clair qu'on connaît, qui est le plus souvent mobilisé pour expliquer les installations périurbaines, mais qui marche aussi de plus en plus vers des installations en campagne éloignées des territoires urbains, c'est on va s'éloigner parce que c'est moins cher. L'accession à la propriété, bien sûr, mais aussi la vie quotidienne. C'est-à-dire, on cherche un lieu qui est moins cher et la campagne nous apporte ça. Ça, c'est assez classique, mais ça marchait assez bien pour certains profils de population. Il y a dans le même ordre d'idée, on s'éloigne, on conserve un lieu de travail urbain, mais on peut le faire parce qu'on peut concilier entre obligations professionnelles et aspiration personnelle à une vie après de la nature, et ça concorde souvent avec des niveaux économiques, des niveaux de vie qui permettent d'accepter la distance, qui permettent aussi d'accepter les coûts de cette pratique spatiale-là. Et puis un dernier ensemble de motivations qui m'a un peu surpris, mais qui était vraiment intéressant à observer, c'est dans quelle mesure certains territoires de campagne aujourd'hui sont choisis pour leur position d'entre-deux. Je vais m'installer dans cette commune-là parce que c'est une configuration spatiale en termes de logique, de situation à une échelle, disons, régionale, qui est favorable. Je m'installe dans cette commune-là, elle est rurale, l'aspect rural m'intéresse, mais surtout, on est en couple, il y en a un qui travaille dans cette ville-là, l'autre qui travaille dans une autre ville-là, finalement, la logique veut de s'installer au milieu. Donc c'est un atout en termes de stratégie spatiale, de localisation, qui porte sur la logique d'entre-deux. Là, plutôt pour des professionnels. On retrouve ça aussi chez des retraités. Cette campagne-là est un entre-deux intéressant par rapport au lieu de vie des enfants, à des échelles spatiales très grandes. Je vais m'installer dans Limousin parce que j'ai un enfant à Paris et l'autre à Toulouse. Et ce territoire de campagne m'intéresse. On est dans un entre-deux spatial à l'échelle nationale et ce territoire-là est choisi pour ses caractéristiques lui-même, mais aussi pour sa position géographique dans un système de lieux, le système de vie de lieux de ces individus-là. Donc dans ce registre de travail sur l'objet migration, mais sous l'angle de la mobilité résidentielle, de la complexification de l'analyse des migrations, on peut faire aussi des choses de manière quantitative. Dans le recensement de la population, il y a une variable qui est référencée, c'est le lieu de naissance. Selon les types de données dont on a accès, on peut même avoir accès à la commune de naissance des individus. On peut faire des liens, on peut faire des analyses statistiques sur la relation entre migration résidentielle et commune de naissance. Là, essentiellement, ce que j'ai essayé de faire dans la thèse, il y a un exemple d'exploitation cartographique qui est une estimation par territoire à l'échelle locale des migrations de retour, des mobilités résidentielles de retour, qui dans le cas présent sont définies comme des individus qui ont migré vers une commune qui appartient au département de naissance, mais qui n'ont pas fait une migration proche, c'est-à-dire qu'ils sont venus quand même d'un autre département. C'est-à-dire qu'il y avait une distance assez grande dans le déplacement, mais en tout cas, ils rejoignent un lieu de naissance partiellement. Voilà, ce qu'on peut essayer d'estimer. Et puis on se rend compte que ce simple indicateur-là montre que ça peut varier selon les territoires, d'autres territoires qui sont plus ou moins concernés, de 10, 15, 20% des migrations qui correspondraient à ce genre de trajectoire. Mais ça reste à approfondir, surtout que la commune de naissance est quand même un indicateur difficile à exploiter, parce que pour certains individus, en fonction des générations, ça ne dit pas la même chose. La commune de naissance peut être l'hôpital de naissance, peut être la commune de résidence des parents au moment de la naissance. Donc c'est quand même à utiliser un peu avec précaution, mais bon, on peut tenter des exploitations là-dessus. Un autre registre d'exploitation que j'ai essayé de travailler dans la thèse, je continue de travailler, c'est travailler l'installation rurale dans une logique de trajectoire résidentielle des individus. L'individu naît à un endroit, il a une vie et il vient s'installer au final dans une commune rurale. Quels sont le parcours qu'il a effectué avant et qu'est-ce que ça nous dit sur qui il est, d'où il vient, pourquoi il est venu là, peut-être. Avec l'idée de faire ça de manière quantitative. Là, je mobilisais les données d'une enquête, donc l'enquête Histoire de vie qui a été réalisée en 2003 entre l'INSEE et l'INED. Et je sélectionne que les individus qui, en 2003, résident dans une commune rurale. La commune rurale, ici, est définie au sens de l'INSEE, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans une unité urbaine, c'est du rural. Dans mon échantillon, ça correspond à 1260 individus qui correspondent de manière pondérée à 6 700 000 individus. Par différentes techniques, là c'est une graphique, ça peut être des techniques statistiques, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc là, je retrace des trajectoires agrégées au cours du temps, au cours du cycle de vie, et essayer de voir les variabilités des trajectoires, par où elles passent, parce qu'ici, la modalité que j'utilise comme discriminant, c'est des types d'espaces. Est-ce que la personne était en rural à ce moment-là? Est-ce qu'elle était dans une petite ville, dans une ville moyenne, dans une grande ville? Et s'il y a un déplacement, s'il y a une migration, mais qu'elle reste dans des communes rurales, ben, elle ne change pas de catégorie. Par contre, s'il y a un déplacement de mobilité, une migration qui change de type d'espace, elle va changer de catégorie. On peut en retirer des choses assez simples, hein, pour le coup, ici, par rapport au système graphique. Mais par exemple, c'était très intéressant de noter que dans les profils d'installation rurale, en 2003, en tout cas dans les données d'enquête, la très très grande majorité des gens étaient passés déjà par une vie dans une commune rurale. La part des urbains qui ont fait toute leur carrière en urbain et qui sont venus s'installer à la campagne à la fin, elle était vraiment très, très minoritaire. Il y a aussi le cas, très classique, de gens qui sont nés dans une commune rurale, qui ont passé leur enfance dans une commune rurale, qui ont changé de lieu de vie, petite ville, ville moyenne, grande ville, et qui sont revenus bien plus tard s'installer dans une commune rurale. La difficulté étant d'arriver à trouver des outils d'analyse comparée de ces différents profils de trajectoire. Derrière les évolutions de population, quand on raisonne notamment en termes de groupes sociaux, de catégories socio-professionnelles, il y a des évolutions qui sont structurelles, c'est-à-dire tel type de profession à l'échelle nationale a tendance à décliner, tel type de profils sociaux a tendance à augmenter. Il y a aussi un levier qui est le levier migratoire, qui contribue par les déplacements de population à changer les structures socio-démographiques locales ou régionales ou à l'échelle nationale. Il y a un premier travail qui peut être fait, c'est travailler sur la migration résidentielle en travaillant sur les profils sociaux des individus qui migrent et en essayant de définir des géographies différenciées selon les groupes sociaux, selon les catégories socio-professionnelles. On peut faire ça aussi en reprenant les idées de types d'espaces définis préalablement et en essayant de voir quelle géographie se dessine, quel type de profils sociaux alimentent plutôt les croissances démographiques dans les catégories périurbaines et inversement dans les autres types de campagnes, en distinguant ici migration de proximité et migration de longue distance. Vous voyez que la géographie qui se dessine, même si on ne va pas l'analyser en détail, elle est très différente. Il y a un volet qui est clairement, dans les migrations de proximité, une diversité d'actifs qui participent à des croissances dans les campagnes des villes, notamment professions intermédiaires, employés, On peut aussi travailler sur la hiérarchie des profils sociaux selon les types de périurbains, etc. Alors que on est dans une multiplicité de flux quand on analyse les longues distances, avec une vraiment beaucoup plus forte place des flux des retraités quand on travaille sur la longue distance, notamment à destination des campagnes présentielles, des campagnes productives, moindre place de profil de certains actifs, etc. Donc, travailler sur la géographie des flux migratoires selon les groupes d'appartenance, les groupes socio-professionnels. En considérant l'appartenance, là c'est une appartenance socio-professionnelle encore plus détaillée, et en confrontant ce qui est fait ici par un indice qui compare la proportion que représente un groupe social dans un espace avec ce que représente ce groupe social dans les populations résidentes. Si on compare ces deux, si on fait un rapport simple entre les deux, lorsque l'indice est supérieur à 1, ça veut dire que le poids des migrations est beaucoup plus fort que ce qu'il est dans les populations réellement résidentes, enfin en tout cas dans l'ensemble des populations résidentes. Et quand on fait ce genre d'analyse statistique, on se rend compte, et sans, notamment de ça, c'est-à-dire qu'en termes de flux migratoires et en termes d'impact dans les structures de population, il y a clairement une très forte progression, voire une progression significative par voie migratoire des groupes sociaux moyens et supérieurs, essentiellement professions intermédiaires et cadres, qui représentent parfois des petits pourcentages, mais qui, par la migration, représentent beaucoup plus que ce qu'ils ne sont finalement encore comme présents sur place. Les retraités, par essence, migrent moins que les actifs. Donc quand on compare la proportion de tel type de retraités dans les migrations avec ce qu'ils représentent sur place, on est la plupart du temps sur des seuils qui sont négatifs. Par contre, c'est quand même intéressant de noter que les anciens cadres, les retraités qui sont anciens cadres et professionnels intermédiaires, ici, dans notre indice, apparaissent de manière positive dans un type d'espace qui est le type 4, qui est le plus rural au sens agricole du terme. Donc on a une significativité de ces flux d'anciens retraités, de cadres dans ce type de territoire. Je vais aller très vite sur le dernier exemple qui était de travailler sur un autre profil intéressant, qui est le profil des étrangers, dont on a beaucoup entendu parler en termes d'installation rurale dans les années 2000. Donc j'avais essayé de travailler sur la présence étrangère en France, en partie des nationalités des individus. Là aussi, ce sont des données sensibles, mais qui sont utilisables, qui sont après autorisation exploitables. Pas d'étonnement, mais on peut arriver à définir une géographie assez précise de la présence des Britanniques, notamment en France, dans l'Ouest, essentiellement, avec des temporalités qui sont assez variées selon les territoires. Mais on peut aussi croiser les présences des Britanniques, par exemple, avec leurs catégories socio-professionnelles, et montrer que, finalement, chez les Britanniques, la majorité, en tout cas, il y a une diversité sociale qui transparaît, qui est peut-être moindre que ce qu'on peut entendre dans les médias, notamment, où, finalement, le profil britannique, on retrouve, de manière moyenne, 16% d'anciens employés, 16% d'anciennes professions intermédiaires, aussi des cadres, des artisans commerçants, en tout cas, une diversité socio-professionnelle qui transparaît dans un public d'individus qui sont souvent considérés de manière plus homogène à l'échelle sociale, quant à leur installation dans les campagnes en France. En deux minutes, je conclue la présentation pour en revenant rapidement sur les idées de départ, le positionnement qui était celui de la thèse et qu'est-ce que j'en retiens, qu'est-ce qu'on peut en retenir. L'entrée était clairement une problématisation par l'idée de renouveau rural, mais mis au pluriel au sens de proposer une lecture diversifiée de la tendance de ce qui se passait. Ça marche, à mon avis. C'est effectivement la bonne entrée, elle est là. Il faut acter l'idée qu'il y a un renouveau, une tendance générale, mais en rester à la simple tendance générale, ça ne dit finalement pas grand-chose, hormis qu'il y a plutôt une tendance favorable, mais que derrière ça, il se cache beaucoup de choses, et notamment en termes de population et de processus qui participent de ça. J'ai assez peu parlé des processus, mais il y a des choses dans la thèse là-dessus. Et un point que j'aime bien souligner et qui me paraît important, c'est que, clairement, dans les différents types de campagnes identifiées, il y a certaines campagnes qui sont où la reprise s'explique par un axe principal ou un autre, mais dans une majorité des cas, à l'échelle locale, à l'échelle d'une même commune, on peut considérer que derrière les croissances, il y a des choses qu'on peut catégoriser sous l'angle de la périurbanisation, d'autres de la gentrification rurale. En tout cas, à une échelle micro-locale, on a des dynamiques qui contribuent à la reprise, qui sont très très variées en termes de population, de profil, etc. Et ça pose des questions vraiment dans l'analyse locale des situations et qu'est-ce qu'on peut en dire. En termes d'hypothèse, des reprises très inégales, mais qui quand même concernent des territoires qui sont de plus en plus éloignés de l'influence urbaine, oui, ça marche, pas partout bien sûr, mais ça marche assez bien. Les migrations comme rôle moteur, oui. L'idée que derrière les reprises, il y a une diversification des profils, oui, mais parce que c'est quand même, statistiquement, c'est quand même difficile à affirmer. Donc il faut le creuser, mais c'est... Et quelques éléments sur les prolongements, sur les analyses qui sont les miennes en ce moment. Il y a un enjeu, à mon avis, dans l'analyse démographique et sociodémographique des campagnes aujourd'hui, qui est de travailler sous l'angle de la trajectoire des individus, la trajectoire des territoires, et d'analyser de manière croisée ça, c'est-à-dire en ne restant pas à une analyse date par date, mais en essayant de recontextualiser les parcours des territoires, les parcours des individus dans l'espace, avec une problématique qui est la problématique de la donnée. On n'a pas beaucoup de données. Sur les territoires, on peut construire. Sur les plans des individus, recueillir des trajectoires résidentielles, des biographies, c'est assez lourd, et il y a assez peu d'enquêtes à l'échelle nationale qui le font aujourd'hui en France. Très rapidement, le lien dans les prolongements avec le postdoctorat que je mène actuellement, il y a une problématique, il y a un questionnement dans le projet qui est aussi quels sont les liens entre dynamique sociodémographique et évolution des comportements de mobilité, et dans quelle mesure, finalement, c'est pas les nouveaux résidents qui contribuent à apporter des pratiques innovantes dans la mobilité des individus. Et puis, une dernière hypothèse pour la suite, j'essaye de travailler aujourd'hui, ou en tout cas d'avancer dans un travail de passer du renouveau démographique du renouveau au sens purement démographique vers autre chose. Est-ce que on pourrait parler dans certains territoires de formes de ruralisation qui combinent des formes de repeuplement, mais aussi des formes de transformation dans les mobilités, dans les modes de vie, avec des fonctionnements où l'espace rural finalement reprend une place un peu plus importante, et également des choses qu'on observerait dans les structures économiques, dans le développement économique de certaines filières qui participeraient d'un renouveau, mais qui serait bien au-delà de la seule question démographique que j'ai pu observer et analyser dans mon travail de thèse. Je vous remercie.